France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Depuis deux jours, son ombre planait lourdement sur le forum de Davos. Cette fois-ci, Donald Trump est attendu sur place en personne. Et déjà, chacun se demande ce que va bien pouvoir oser le président américain. Sans attendre la réponse, la France a proposé ce matin d'organiser un exercice de l'OTAN au Groenland. On tâchera de comprendre ce qui se cache derrière une telle opération. Et puis avec notre invité, on se demandera si le Conseil de paix que Donald Trump toujours lui entend créer est une manière de concurrencer l'ONU. On se rendra par ailleurs à Strasbourg où le Parlement européen doit se prononcer sur la suspension ou non de l'accord avec les pays du Mercosur. Nous serons également au procès en appel des assistants parlementaires du FN. Enfin, on dressera un état des lieux accablant du sexisme en France. Objet de fascination pour les uns, de sidération pour les autres, avant même que Donald Trump ne pose les pieds dans la station grisonne des Alpes suisses. Déjà, ses obsessions comme ses colères monopolisaient toutes les conversations et forcément, son arrivée aujourd'hui au Forum mondial de Davos, annoncée avec un retard de 3 heures, n'aura fait que rendre son attente encore plus remarquée. L'occasion aussi pour les Européens de prendre davantage de temps pour réfléchir à une riposte possible face aux velléités expansionnistes du président américain. C'est ainsi que ce matin, la France, par la voix de son président Emmanuel Macron, a proposé un exercice de l'OTAN au Groenland. Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors on le sait, en voulant forcer l'annexion du territoire autonome de l'océan Arctique, Donald Trump a pris un risque assumé, celui de trahir l'OTAN, ou à tout le moins de rompre avec les règles anciennes de l'Alliance Atlantique. À ce titre, est-ce que la parade proposée donc par la France ce matin, l'organisation de cet exercice conjoint des alliés de l'OTAN au Groenland, est une manière, Éric, de tester au fond jusqu'où le milliardaire républicain est prêt à aller?
Alors dans un premier temps, Thomas, il s'agit bien de tester la solidité de l'Alliance Atlantique elle-même, hein, mise à mal par les revendications de Donald Trump sur le territoire d'un des pays de l'OTAN. Dans ces termes même, hein, l'OTAN, c'est, rappelons-le, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et le Groenland, eh bien au milieu de ce théâtre d'opération potentiel, l'Atlantique Nord. Organiser un exercice majeur en défense de la zone arctique et du Groenland, en particulier, fait donc sens. Actuellement, deux exercices séparés sont en cours d'élaboration, sur et autour de l'île groenlandaise. Le premier, initié par les Danois, réunit des troupes européennes, essentiellement, pour le moment en nombre limité, mais a promis par exemple le président français un déploiement des armées de terre, de la marine et de l'armée de l'air est envisagé. Des rumeurs recueillies par l'hebdomadaire Le Marin font même état d'un possible déploiement du groupe aéronaval français, c'est-à-dire le porte-avions Charles de Gaulle. Le second exercice, annoncé cette dernier jour par le NORAD américain, le commandement de la défense aérienne de l'Amérique du Nord, prévoit le déploiement sur la base américaine de Pitufik, sur la côte nord-ouest du Groenland, de plusieurs chasseurs supplémentaires américains. On n'en connaît pas exactement le nombre. Alors qu'il s'agisse des Européens ou des Américains, ces deux déploiements simultanés au Groenland sont de l'ordre de la posture, du signalement, mais non pas vis-à-vis des adversaires traditionnels, russes ou même chinois. Ce sont des postures premièrement des Européens vis-à-vis des Américains et deuxièmement, inversement, des Américains vis-à-vis des Européens. Et ça, c'est complètement inédit. Alors, demander un exercice commun de l'OTAN au même endroit, réunissant les uns et les autres, c'est une façon de réaffirmer les objectifs de l'Alliance Atlantique, mais aussi une manière de désescalade dans les postures.
Merci Éric Biégala. Alors bien que jamais à court d'arguments lorsqu'il s'agit de déverser tout son fiel contre le multilatéralisme, Donald Trump sans craindre pour autant la contradiction a récemment annoncé son intention de créer un conseil de paix, initialement pour superviser la reconstruction de Gaza, mais destiné en réalité à œuvrer plus largement à la résolution des conflits partout dans le monde, manière de mettre sous la coupe de sa propre personne et d'un noyau resserré de ses proches, rien de moins que l'ordre international dans son ensemble. Alors est-ce que la volonté d'un seul homme, fut-il le président de la première puissance mondiale, peut suffire à instaurer un nouvel ordre planétaire, alternatif, semi-privé? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Chloé Morel, historienne, chercheuse associée au CIRIS de Sorbonne Université, par ailleurs autrice d'un ouvrage intitulé « Les grands discours à l'ONU » paru en 2024 aux éditions du Croquant. Bonjour madame.
Bonjour.
Même si dans son invitation à rejoindre donc ce Conseil de paix, Donald Trump promeut une organisation internationale, on a du mal malgré tout à ne pas lire derrière ses intentions a priori bienfaisantes une initiative d'abord et surtout à contre-courant du multilatéralisme démocratique tel qu'on le conçoit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une tentative de court-circuiter l'ONU, de la contourner, et ce n'est pas du tout démocratique parce que dans sa charte de 8 pages, le Conseil de la paix ne mentionne pas une seule fois le mot « démocratie ». Et de plus, Trump en serait le président à vie. Il aurait un siège permanent. Et pour les autres pays, pour avoir un siège permanent, il faudrait qu'ils payent $1 milliard, ce qui est complètement antidémocratique, alors que c'est l'ONU qui reste l'instance internationale la plus démocratique, la plus universelle, avec 193 États membres.
Ça veut dire que c'est un ordre international privé que Donald Trump propose de construire et dont il serait le seul maître à bord ?
Eh bien, en tout cas, ça ne serait pas universel, pas démocratique, et les décisions prises à la majorité des États membres seraient soumises à l'approbation du seul président Trump. Donc, c'est vraiment entièrement un directoire, entièrement contrôlé par Trump lui-même, une concentration du pouvoir. Et la France a bien fait de refuser d'y participer. Et d'ailleurs, il a envoyé 60 invitations à des pays dont la plupart sont des pays autoritaires, et ceux qui ont accepté, comme le Maroc, Israël, les Émirats arabes ou le Kazakhstan, ne sont pas des modèles de démocratie. Et dans le conseil exécutif restreint qu'il a créé, il n'y a que des Américains, sauf en plus Tony Blair. Donc ce n'est pas du tout équilibré. Et c'est pour ça qu'il est très important que les États démocratiques, comme la France, comme l'a fait la France, refusent d'adhérer à ce simulacre d'institutions internationales qui est vraiment l'opposé de tout ce qu'on a bâti depuis 80 ans avec l'ONU et l'idéal multilatéraliste.
Effectivement, seule la France et la Norvège ont officiellement refusé jusqu'à présent. De leur côté, la Chine ou la Russie réservent leur réponse. Elles ont d'ailleurs accueilli cette invitation plutôt avec tiédeur. En revanche, du côté de l'ONU, seule une timide déclaration du porte-parole du secrétaire général s'est fait entendre pour rappeler le contexte restreint dans lequel devait initialement s'inscrire la création de ce conseil. Comment est-ce que vous comprenez cette forme de timidité ?
Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de stupéfaction, beaucoup d'acteurs sont tétanisés, ne savent pas encore sur quel pied danser, mais il est vraiment urgent que l'ONU réagisse, par exemple par la voix de son Assemblée générale, dans laquelle chaque État, riche ou pauvre, dispose d'une voix. Il faudrait que l'Assemblée générale adopte une résolution pour condamner cette tentative de Trump et réaffirme l'idéal multilatéraliste de l'ONU avec ses mécanismes démocratiques, ses déclarations et conventions progressistes qui sont à l'opposé de cette charte de Trump qui n'est pas du tout dans l'esprit de la démocratie et qui sont là pour cautionner ses volontés expansionnistes et unilatéralistes de s'emparer par exemple du Groenland, de faire sa loi, la loi du plus fort au Venezuela ou ailleurs, et qui est très dangereux et qui est une négation des relations internationales fondées sur la négociation collective comme l'illustre l'ONU.
Depuis plusieurs mois déjà, Donald Trump se sature plus que jamais l'espace médiatique d'une multiplication de déclarations concernant ses vues sur la scène internationale. Donc, encore une fois, avec cet OPA hostile à l'encontre du multilatéralisme, pour l'instant, il s'agit essentiellement de déclarations. Est-ce qu'on ne risque pas de prêter trop de puissance à ces seules annonces, au fond, ou à des projets dont la portée exacte est encore incertaine, comme précisément ce Conseil de paix ?
Je crois que c'est pas seulement des annonces. Il a fait cette opération militaire au Venezuela où il a capturé un président en exercice, ce qui est contraire à la charte de l'ONU, à l'article 2.4 qui dit qu'un pays n'a pas le droit d'agresser un autre État membre de l'ONU. Et aussi sur son sol, il ne respecte pas dans les États-Unis les concepts et les droits humains mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans la Déclaration des droits des travailleurs migrants, qui sont des textes onusiens. Or, les États-Unis sont membres de l'ONU, ils ne respectent pas tous ces droits humains sur son sol, avec la chasse aux migrants, les expulsions, la répression des militants de gauche, des personnes LGBT. Donc, ils ne respectent pas des principes onusiens alors que son pays est membre de l'ONU. Donc, ça, c'est très grave. C'est pas seulement des déclarations, c'est des actions aussi.
Merci Chloé Morel, historienne, chercheuse associée au CIRIS de Sorbonne Université, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Quand Donald Trump choisit de ne pas s'embarrasser des conventions, y compris dans son propre pays.
Oui, c'était en août de l'année dernière. Le président américain avait décidé de révoquer la gouverneure de la réserve fédérale, Lisa Cook, dont l'indépendance irritait le milliardaire républicain. Alors, celle-ci avait malgré tout obtenu de la justice de pouvoir rester en poste jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Or, c'est à partir d'aujourd'hui, justement, que les 9 juges de la Cour suprême vont devoir déterminer si Donald Trump a ou non respecté la loi en voulant ainsi la révoquer. L'enjeu est évidemment crucial pour l'indépendance de l'institution monétaire. La Cour a jusqu'à fin juin pour rendre sa décision.
Le Chili se retrouve aujourd'hui plongé au milieu des décombres et des fumées persistantes.
Oui, au propre comme au figuré d'ailleurs, puisque non seulement le sud du pays est effectivement ravagé depuis 4 jours maintenant par des incendies meurtriers toujours en progression, mais aussi parce qu'hier, le nouveau président élu d'extrême droite a annoncé la nomination à des postes clés de son futur gouvernement de 2 anciens avocats du défunt dictateur Augusto Pinochet, l'un à la défense et l'autre à la justice et aux droits humains. Au premier des 3 jours de deuil national observé en Espagne, 48 heures après la collision tragique qui a fait au moins 42 morts en Andalousie, voilà que le pays était frappé hier par un nouveau drame en Catalogne, cette fois-ci un accident ferroviaire près de Barcelone, un train de banlieue a déraillé après l'effondrement d'un mur de soutènement sur les voies tuant le conducteur et faisant 4 blessés graves.
C'est un vote crucial à l'issue encore incertaine.
C'est aujourd'hui que les eurodéputés doivent décider de saisir ou non la Cour de justice de l'Union européenne sur la validité de l'accord de libre-échange conclu avec les pays du Mercosur. Alors forcément, tous les détracteurs de cet accord commercial espèrent qu'un recours permettra de retarder sa ratification et donc sa mise en œuvre. Et puis à l'inverse, ses partisans soulignent la nécessité de le mettre en application le plus vite possible, notamment après que Donald Trump a agité la menace de nouveaux droits de douane punitifs contre l'Europe. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
En direct de Strasbourg, seule certitude, les eurodéputés seront appelés, une fois n'est pas coutume, Fabien, à se prononcer en majorité sur des lignes de fracture essentiellement nationales plutôt que partisanes.
Effectivement, avec une polarisation très claire en fonction de l'origine géographique des eurodéputés, fait extrêmement rare à Paris. Ici, les eurodéputés français de tous bords, de l'extrême gauche à l'extrême droite, auront aujourd'hui à Strasbourg le même vote. Oui à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de cet accord commercial avec le Mercosur, dont ils contestent notamment la conformité avec les traités européens en matière de protection des consommateurs et de défense de l'environnement. Le vote s'annonce extrêmement serré car à l'intérieur de chaque groupe politique, les Français font notamment face à des Allemands et à des Espagnols, tous unanimement très favorables au contraire au projet d'accord avec le Mercosur. Eux voteront donc contre le recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Et puis, entre les deux camps, il y a quelques dizaines d'eurodéputés qui semblent plutôt indécis, souvent tiraillés entre leurs origines nationales justement et leurs opinions politiques sur les accords de libre-échange. En cas de vote favorable à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, l'application provisoire de l'accord avec le Mercosur ne sera pas nécessairement suspendue. La décision en reviendra à la Commission et au Conseil européen qui, eux, se sont toujours prononcés en faveur de l'accord.
Merci Fabien Cazot, en direct de Strasbourg.
Midi et 42 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
À la barrière pendant près de 5 heures au procès des assistants parlementaires du FN, la chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen, est de retour depuis ce matin au tribunal où vous vous trouvez. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Hier, la triple candidate malheureuse à la présidentielle a nié en bloc les accusations de détournement de fonds publics et démenti l'existence d'un système. Depuis ce matin, la cour d'appel parcourt les contrats des assistants parlementaires de Marine Le Pen, justement, en particulier ceux de Catherine Griset, laquelle apparaît sur plusieurs organigrammes du FN, mais aussi dans l'annuaire de l'ancien siège du parti à la flamme, et ce, alors même, Anne, qu'elle était assistante parlementaire accréditée donc au Parlement européen.
Quand Catherine Griset est devenue votre assistante parlementaire, qui l'a remplacée au sein de votre cabinet? Qui s'occupait de son travail? Interroge la présidente Michèle Agy. Marine Le Pen s'agace un peu. On a l'impression que Catherine Griset est seule, mais j'ai un cabinet, j'ai du monde autour de moi. Catherine s'est toujours occupée de toutes les fonctions de secrétariat de mon mandat d'eurodéputée, affirme-t-elle. Mais elle apparaît encore dans l'organigramme du parti en 2011 et en 2015. C'est ça qui interroge la cour, reprend la magistrate. Vous avez raison, rétorque Marine Le Pen. Catherine a toujours été la porte d'entrée à Marine Le Pen. Je suis mise dans une situation impossible, poursuit-elle. Je peux prouver qu'elle a travaillé au Parlement européen, mais je ne peux pas prouver qu'elle n'a pas été amenée à intervenir comme assistante de la présidente du FN. Je ne peux pas apporter la preuve d'un fait négatif. La juge rappelle que le directeur général des finances du Parlement européen a rappelé la semaine dernière l'interdiction de réaliser un travail pour le parti dans le cadre des horaires de travail pour le Parlement européen. Il y avait une porosité certaine. C'est assez inquiétant, remarque la magistrate. À minima, Il y a une ambiguïté, on s'éloigne d'une preuve négative impossible. On enchaîne ensuite sur les cas des autres assistants de Marine Le Pen, Michel Brunat, Thierry Légier ou encore Guillaume L'Huillier. Face aux réponses assertives de Marine Le Pen, la magistrate se lasse. Vous étiez avocate, vous connaissez le droit, je ne vais pas aller là-dessus quand même. Une signature, vous savez ce que c'est. On ne peut quand même pas dire que c'était nébuleux.
Merci Anne Fauquemberg ainsi qu'à Raymond Alboué pour les moyens techniques.
La France sous-estime-t-elle la menace masculiniste ?
C'est en tous les cas le sens de l'alerte lancée aujourd'hui par le Haut Conseil à l'égalité, lequel publie son rapport annuel sur l'état du sexisme et appelle la France à adopter une stratégie pour lutter contre cette idéologie haineuse vis-à-vis des femmes. Jeanne Serrin, bonjour.
Bonjour.
Selon le HCE, le pays accuserait un retard, je cite, préoccupant dans l'identification et le traitement de ce phénomène. Et de fait, Jeanne, à en croire les chiffres stupéfiants dévoilés dans ce baromètre, on comprend que le mot n'a pas été choisi au hasard.
Oui, un baromètre qui pour la première fois différencie deux catégories de sexisme. Le premier dit paternaliste, celui qui valorise les rôles traditionnels de chaque sexe dans la société. La femme à la cuisine, l'homme aux affaires, cela vous semble peut-être caricatural. Pourtant, près de 80% des Français estiment encore par exemple que c'est aux hommes d'assumer la responsabilité financière de la famille. Mais le Haut Conseil à l'égalité attire surtout l'attention sur le sexisme dit hostile, partagé par 17% de la population. C'est celui qui dévalorise les femmes, justifie les violences à leur égard, des hommes qui se victimisent et nourrissent une haine. Les femmes me rejettent à cause de mon physique. Ils ont préféré une femme à moi pour ce poste. 4 hommes sur 10 estiment aujourd'hui que le féminisme menace leur place dans la société.
Et ce faisant, le risque, Jeanne, identifié donc par le Haut Conseil à l'égalité, c'est un passage à l'acte.
Une menace bien réelle. Rappelez-vous, l'été dernier à Saint-Étienne, un jeune de 18 ans est interpellé pour un projet d'attentat qui visait plusieurs femmes. Le parquet national antiterroriste ouvre une information judiciaire, une saisine inédite du PNAT pour ce type de menace. D'où ses recommandations: intégrer le terrorisme misogyne dans les doctrines de sécurité, former les agents du renseignement au code masculiniste et renforcer les moyens de surveillance, ceux de la plateforme Pharos par exemple, car c'est bien en ligne sur les réseaux sociaux que ces contenus trouvent le meilleur terreau pour se diffuser chez les jeunes hommes tout particulièrement.
Merci Jeanne Serrin. Maintes fois reportée la réforme de la fin de vie, de retour depuis hier au Parlement, plus exactement au Sénat, et d'ores et déjà les premiers votes hier soir laissent présager un rapport de force plutôt favorable aux élus de la droite les plus réservés, voire carrément hostiles à ce projet de loi censé créer un droit à l'aide à mourir. La science est-elle toujours source de progrès ? Réfléchir collectivement sur les enjeux éthiques liés aux progrès scientifiques et sociétaux, c'est tout l'objet des états généraux de la bioéthique lancés ce matin par le Comité consultatif national d'éthique et qui, 4 mois durant, vont rassembler donc des citoyens, des associations, mais aussi des institutions et des professionnels de santé pour dialoguer sur les transformations à la fois scientifiques et sociétales en cours depuis ces 5 dernières années. Une entreprise nécessaire mais difficile, prévient Jean-François Delfraissy. Il est le président du Comité consultatif national d'éthique. Il explique pourquoi à Cécile de Caramastoué.
La science a beaucoup bougé. On l'a vu dans le cadre de l'immunothérapie dans le cancer, on le voit dans les nouvelles approches des traitements des troubles neurocognitifs, donc les premiers médicaments qui auront peut-être une action sur la maladie d'Alzheimer. Et un autre bouleversement important, c'est un bouleversement de société. On s'aperçoit de plus en plus que nous avons un vieillissement de la population avec une baisse de la natalité. Derrière ça, ça veut dire que le pacte intergénérationnel sur lequel repose la solidarité dans le cadre de la santé ne pourra plus être mis en place, quelle que soit l'opinion politique qu'on peut avoir. Nous avons sur la table cette question. D'une part, une augmentation de la longévité chez les personnes les plus âgées qui vieillissent plutôt mieux et en bonne santé et à qui on consacre beaucoup de financement dans le soin. Et puis, si on regarde les chiffres de longévité attendu dans la population la plus jeune, c'est-à-dire inférieure à 60 ans, on constate une diminution d'une longévité probable en raison d'une mortalité infantile qui revient plus importante, d'un certain nombre de points sur la santé mentale des jeunes, etc. On est un pays qui consacre un financement important de ses moyens de santé qui ne sont pas extensibles à la population la plus âgée. C'est un sujet extrêmement sensible et c'est un des sujets qu'on va avoir lors de ces états généraux, la sobriété en médecine.
On l'a appris ce matin, le géant laitier Lactalis a annoncé procéder à un rappel de 6 lots de lait infantile de la marque Picot en France en raison de la présence potentielle d'une substance d'origine bactérienne susceptible de provoquer diarrhées et vomissements. Au total, 18 pays seraient concernés par ces rappels. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par l'arrivée d'une perturbation qui touchera la moitié ouest du pays. Le reste du territoire restera à l'écart de cette agitation. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.